de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
On le sait, Le Havre est né de la volonté de François Ier, 2 ans après le début de son règne en 1517, de fonder un port et aussi une ville sur le littoral cauchois. En palliant à l'ensablement du port d'Harfleur, il s'agissait alors de répondre à la croissance des échanges commerciaux et aussi de faire face à la constante menace que représentait l'Angleterre. En 2015, dans Tout un monde, 5 siècles après la bataille de Marignan, Marie-Hélène Fraissé proposait une émission intitulée « François Ier, la Renaissance et le goût du monde ». Avec l'historien Jean-Marie Le Gall et Franck Lestringant, spécialiste des grandes découvertes et des guerres de religion, on y rappelait ce qu'était la France de ce début du XVIe siècle, qui était François Ier et dans quel contexte géopolitique régna pendant 32 ans ce roi emblématique d'un temps tourné vers des horizons nouveaux.
Bonjour à tous, c'est votre rendez-vous avec Tout un monde, aujourd'hui au temps de la Renaissance, à l'heure où François Ier et le Royaume de France portent le regard au-delà de l'horizon pour entrer de plein pied dans l'ère dite des découvertes. Manière à nous d'éclairer les 500 ans du fameux Marignan 1515 qui illustre notamment une exposition à la Bibliothèque Nationale et puis de très nombreuses manifestations tout l'été, notamment en Pays de Loire. Nous sommes en compagnie de l'historien Jean-Marie Le Gall et avec tout à l'heure le témoignage de Franck Lestringant, spécialiste des voyages au XVIe siècle. De 32 ans, celui de François Ier, 1m98, beau parleur, bon vivant, roi galant, amoureux de musique, de poésie et de châteaux et également d'horizons nouveaux. Car c'est de François Ier que date la toute première impulsion du royaume de France en vue de découvrir et surtout tenter de tirer parti de ces mondes nouveaux au bout de l'océan qu'on appelle les Indes ou les Amériques. Et ce, tout en inaugurant une politique étrangère qui fera scandale en Europe et qui consiste à passer des accords avec le diable en personne, le sultan Soliman dit le magnifique, François Ier et le goût du monde. Voilà, petite musique d'époque avec le groupe Douce Mémoire. Bonjour Jean-Marie Le Gall.
Bonjour.
Merci de passer cette demi-heure avec nous. À l'occasion donc de cet anniversaire, vous publiez un livre qui met un petit bémol dans les célébrations Marignan 1515, puisque vous, c'est l'honneur perdu de François Ier, Pavie 1525. 10 ans plus tard, on pavoise un tout petit peu moins. Un livre qui vient de paraître dans la bibliothèque historique Payot. Alors, 1515, ça serait peut-être une date qui fait un peu écran.
Effectivement, la date est restée dans les mémoires parce que tout d'abord, elle est facile à mémoriser. Ensuite, parce qu'elle correspond finalement avec le début du règne. Voilà quelqu'un qui commence l'année 1515 en montant sur le trône et l'année n'est pas échue qu'il a remporté une grande bataille. Ensuite, il faut bien voir que 1515 est quand même une fabrication largement postérieure à la défaite de Pavie. Tout le monde connaît la chanson de Clément Jeannequin, La Bataille, que l'on dit avoir été écrite à l'occasion de la bataille de Marignan. En fait, elle n'entre en circulation, elle n'est imprimée qu'en 1528. De même, tout le monde connaît Bayard adoubant François Ier sur le champ de bataille à Marignan. En fait, il n'y a pas de mention de ce sacre militaire, en quelque sorte, de cet adoubement militaire chevaleresque, avant l'année de Pavie, très précisément septembre 1525. Il s'agissait en quelque sorte d'inventer Marignan pour occulter la défaite et la captivité royale pendant un an et quelques mois.
Alors François Ier, c'est un roi qui soigne son image, comme le sous-entend l'exposition qui est présentée à la Bibliothèque nationale, François Ier, pouvoir et image. Il est très conscient de ça.
Oui, alors est-ce que c'est lui qui est conscient de son image? Disons que à l'époque, les princes, sur le modèle d'ailleurs des princes italiens, ont une image qui est fabriquée par leur entourage. Alors c'est des hommes de lettres qui veulent absolument voir en eux un roi qui protégera les lettres, ou au contraire un mécène qui fera des commandes artistiques. Il est certain qu'il a eu l'intelligence en quelque sorte de savoir exploiter tout ce potentiel artistique en quelque sorte pour développer la construction de son image, qui est évidemment une construction d'image politique, et notamment celle du roi chevalier, qui permet d'occulter que ce roi chevalier a peut-être été un capitaine qui a perdu des batailles.
Alors on parlera tout à l'heure de cette fascination qu'il éprouve pour l'Italie, mais vous savez, dans cette émission, tout un monde, on cherche à avoir une vision globale, parfois donc à des certains moments de l'histoire. Et ce qui me semble frappant dans le moment précis du règne, qui est très long d'ailleurs, de François Ier, c'est une sorte de basculement. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a l'impression que la France se tourne vers le reste du monde et que elle constate... peut-être pas tout de suite, mais chemin faisant, qu'elle a pris beaucoup de retard. Car dans nos livres d'histoire, on s'aperçoit bien qu'à la fin du XVe siècle, donc, voilà que démarre l'histoire des Portugais, des Espagnols, donc à travers le monde, Christophe Colomb, la route des Indes. Et puis voilà cette France qui semble ne pas en avoir vraiment pris conscience, qu'il y a des gros enjeux. Il y a ce fameux traité de Tordesillas en 1494, et le monde est virtuellement découpé entre deux puissances ibériques. Et que fait la France pendant ce temps-là?
Alors la France, elle a des atouts. Tout d'abord, c'est un pays qui, depuis la fin du XVe siècle, n'a cessé de voir son littoral s'accroître, puisque la Provence a été rattachée en quelque sorte à la France à partir de 1480, que la Bretagne entre dans ces années-là, entre la défaite de Saint-Aubin-le-Corbier, disons entre 1488 et 1532, dans le giron du Royaume de France. Donc, si vous voulez, les populations maritimes, les littoraux français s'accroissent. La France, elle n'est pas enfermée dans des frontières hexagonales à l'époque. D'ailleurs, elle a un horizon. Elle veut être en
Italie. D'ailleurs, elle n'est pas hexagonale.
Elle n'est pas du tout hexagonale. Et elle veut constituer une monarchie composite, en quelque sorte, en ayant aussi Naples et le duché de Milan. Donc, la France participe, si vous voulez, de à la fois cette ouverture au monde. Et dans cette ouverture au monde, il y a l'ouverture vers l'Italie, la Méditerranée, et évidemment vers la mer Océane. Et ce qu'il peut y avoir derrière, c'est-à-dire l'Asie, que l'on la rejoigne par l'Est ou par l'Ouest. Alors, il est intéressant de voir qu'un des frères de Christophe Colomb, dans les années 1480, qui cherche absolument à développer des projets d'expédition navale, s'était adressé à la couronne de France, à Anne de Beaujeu. Et puis, ça n'avait pas eu de succès, pas plus qu'il n'avait eu de succès, d'ailleurs, auprès du roi du Portugal. Et vous savez que Christophe Colomb lui-même, finalement, il n'y aurait pas eu la chute du royaume de Grenade en 1492, probablement que la monarchie espagnole, castillane, aurait refusé, finalement, le projet. Alors, simplement, les Ibériques ont pris de l'avance. Ils ont pris de l'avance, et cette avance a été... Les Portugais, ça fait déjà depuis le début du XVe siècle. D'ailleurs, au début du XVe siècle, le premier à avoir reconnu les Canaries, c'était un Normand, Jean de Bettencourt, mais c'était la guerre civile en France, alors il a remis les Canaries au roi du Portugal, je crois. Non, de Castille. Alors, c'est vrai que les Ibériques ont pris de l'avance, et quand le roi de France arrive, en quelque sorte, les milieux français commencent à s'intéresser à la mer, les Espagnols ont déjà obtenu du pape, un pape espagnol d'ailleurs, Alexandre VI Borgia, le partage des terres découvertes entre Espagnols et catholiques.
Et à découvrir.
Et à découvrir, ce qui sera corrigé ensuite un peu plus tard par le pape pour faire plaisir à François Ier. Et c'est pas évidemment parce que le pape peut distribuer des domaines, encore que certains le prétendent, mais c'est surtout avec cette idée que ces monarchies auront la responsabilité de l'évangélisation. Alors François Ier et les milieux marchands, les milieux malouins, les milieux des Poix, les milieux rouennais vont être attentifs à ça. François Ier aura quelques intérêts pour les expéditions navales, on le verra tout à l'heure, Verrazzano, Jacques Cartier, Robert Val.
Un peu du bout des lèvres, on verra aussi.
Oui, mais... c'est ça, c'est pas sa préoccupation. En Espagne, si vous voulez, la Reconquista, qui a été quand même le phénomène de reconquête, a développé une idéologie chevaleresque qui va trouver à se prolonger en quelque sorte dans la conquête. D'ailleurs, on va appeler les conquistadors, les aventuriers espagnols. En France, il n'y a pas de phénomène de reconquista. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'imaginaire chevaleresque, mais cet imaginaire chevaleresque, il trouve en quelque sorte à s'assouvir dans les expéditions italiennes.
Quam admirabilis, c'est un conduit anglais qui précède d'ailleurs, puisque c'est une pièce de musique polyphonique du XIVe siècle, mais peut-être que François Ier écoute encore ce genre de musique, notamment quand il va à la messe, et c'est chanté joliment par l'ensemble Beatus qui sort un CD, Le Lys et le Lion, autour des polyphonies des royaumes de France et d'Angleterre. Alors ça nous amène, Jean-Marie Le Gall, à parler de peut-être cette relation qu'entretient François Ier avec le monde européen, les nations qui sont autour de lui. Vous nous disiez tout à l'heure, ce sont des expéditions italiennes qui l'intéressent, et ça va être au départ le monde vraiment européen au sein duquel il va développer sa stratégie. Alors cet intérêt passionné pour l'Italie, qui va lui valoir d'ailleurs quelques mécomptes.
Alors l'intérêt pour l'Italie, c'est l'intérêt tout d'abord que la famille de France, appelons-la comme ça, prétend avoir sur des héritages italiens. Il y a tout d'abord l'héritage angevin, un des frères de Saint-Louis qui avait été roi de Naples et roi de Sicile. La famille d'Anjou s'éteint, elle transfère donc la Provence à la France, au domaine royal, ainsi que les droits des Angevins sur la couronne de Naples. Il faut savoir que les Angevins sont restés à Naples jusque dans les années 1430. Et puis ensuite, lorsque le prédécesseur de François Ier monte sur le trône, Louis XII, il est de la famille d'Orléans. Or, les Orléans prétendent, par l'héritage des Visconti, être les héritiers du duché de Milan, en lieu et place des Sforza qui y règnent. Et donc, ce sont ces intérêts dynastiques qui conduisent le roi de France à s'intéresser, les rois de France successifs, à s'intéresser à l'Italie. Et puis l'Italie, c'est quand même une des régions les plus urbanisées, une des régions les plus riches d'Europe. C'est aussi une terre dans laquelle siège la papauté. Donc, si vous voulez...
Et c'est une terre de culture.
C'est une terre de culture, qui a le Quattrocento italien. Et donc, il y a un attrait pour l'Italie comme étant le lieu où l'imaginaire chevaleresque va pouvoir s'assouvir. En quelque sorte.
Alors, dans ce monde européen, la diplomatie donc intra-européenne de François Ier donc gravite entre Charles Quint, immense empire qui inclut l'Espagne, le Saint-Empire, et puis il y a Henri VIII, voilà l'Anglais qui monte, petit à petit va faire de cette petite île une grande puissance à l'échelle mondiale.
Oui, alors disons que sous le règne de François Ier, l'ascension des Tudors commence. Il va quand même être entravé, parce que l'Angleterre de l'époque n'est pas l'Angleterre du XIXe siècle, c'est quand même une île relativement peu peuplée. Rappelons d'ailleurs qu'elle n'est pas unie, puisqu'il y a un royaume d'Écosse qui est indépendant et qui est allié traditionnel de la France, qu'on appelle l'Old Alliance. Et puis, ce roi Henri VIII, il est fragilisé par son divorce qui conduit à un schisme avec Rome, qui le met dans une position un petit peu difficile dans le jeu européen. Donc, dans ces trois jeunes premiers, en quelque sorte, qui se disputent l'hégémonie en Europe, c'est-à-dire François Ier, Henri VIII et Charles Quint, je dirais que c'est celui qui peut essayer de départager les deux, mais l'affrontement, il est principalement, et pour près de 150 ans, entre les Valois de France, puis ensuite les Bourbons, et d'autre part le Habsbourg. Parce qu'il faut voir que Charles Quint a accumulé un ensemble patrimonial qui est sans équivalent. Il est l'héritier des royaumes de Castille et d'Aragon, qui possède aussi Naples, qui possède aussi la Sicile par ses grands-parents espagnols. Il est l'héritier de l'empereur Maximilien, son grand-père. Or, il faut bien voir que l'empereur Maximilien, c'est pas uniquement le Saint-Empire romain germanique, c'est aussi les Pays-Bas, c'est aussi une partie de la Bourgogne qu'il revendique. Et puis d'autre part, c'est une partie de l'Italie du Nord qui est terre d'empire, le Milanais, etc. Donc c'est... Et puis en plus, c'est les mondes nouveaux que les Castillans ont découverts.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Fraissé.
Voilà donc peu à peu l'horizon qui s'élargit en ce début du XVIe siècle du côté des océans. Saint-Malo va prospérer, François Ier va fonder le Havre en 1537 et de Dieppe, le navigateur armateur Jean Angot envoie ses navires sur les routes des Portugais et des Espagnols, une histoire que connaît très bien Franck Lestringant qui a publié un nombre très impressionnant d'ouvrages sur cette époque des découvertes.
Jean Angot a lancé des expéditions, des vaisseaux vers l'Amérique, mais aussi vers l'Orient. Hein. On pense par exemple à l'expédition de Jean Parmentier à Java, à Sumatra-Java, pour aller chercher des épices. Donc les mers s'ouvrent petit à petit aux Français comme elles se sont ouvertes auparavant aux Portugais et aux Espagnols. Les Français ne sont pas à l'écart totalement. Alors, longtemps, ces initiatives se passent de façon non pas clandestine, mais autonome et sans la protection royale. Et François Ier, à deux reprises, couvre de son autorité des expéditions. C'est au moment donc de l'expédition de Verrazzano en 1524 et puis au moment des expéditions de Jacques Cartier. C'est sous le règne de François Ier que Jacques Cartier découvre le Canada en 1534, puis en 1536 et à nouveau en 1542. Il va tenter une expédition de peuplement, une colonisation effective du Canada qui va aboutir à un échec et le tout sera rapatrié en 1543. Mais disons qu'il y a une succession d'étapes qui prépare la suite. Et la suite, c'est sous le règne d'Henri II, surtout que la tentative de colonisation va prendre forme et va se développer et gagner en durée. Ce sera les tentatives de Villegagnon au Brésil, en 1555 jusqu'en 1560, pendant 5 ans.
Donc ce qu'on a appelé la France Antarctique.
Exactement, la France Antarctique du Rio de Janeiro. Villegagnon va fonder une colonie qui va durer 5 ans et qui aurait pu durer plus. Et puis, il y a ensuite... Dans les années 1560, au tout début des guerres de religion, les expéditions en Floride, qui sont, au point de vue du nombre de navires et du nombre d'hommes mobilisés, les plus importantes. Alors, c'est au moment où l'amiral de Coligny a pris ses fonctions, en 1552. C'est après la mort de François Ier. Mais avant la mort de François Ier, il y a déjà des tentatives. Il y a celle de Verrazzano, il y a celle de Jacques Cartier et de Robert Valle.
Le milieu protestant va être très actif sur ce front des découvertes et des premières implantations de comptoirs ou de colonies.
Alors finalement, le protestantisme de ces marins, c'est une chose qui n'est pas très connue, ni très sûre, ni très... C'est une chose qui devient évidente au moment des guerres de religion. Là, on sait clairement leur religion. Par exemple, les colonisateurs de la Floride n'emmènent pas de curé. Il n'y a pas de prêtre il y a trois expéditions qui partent vers le Nouveau Monde, et en l'absence de tout membre du clergé. C'est quand même un signe patent qu'il y a un problème de confession. Mais auparavant, alors il n'est pas sûr que ces marins soient déjà protestants, mais ils sont un peu entre deux chaises, si je puis dire. Ils sont un peu entre la France et l'Angleterre. Ce sont des marins bretons dans le cas de Cartier, évidemment, mais surtout normands. Et la Normandie, elle est entre la France, entre l'île de France et l'Angleterre. On est entre deux mondes. Et la Normandie, pendant la guerre de Cent Ans, a été une grande partie des décennies qui remplissent la guerre de Cent Ans, a été aux mains des Anglais. Et elle a gardé des attaches avec les Anglais. Et petit à petit, le glissement des marins protestants vers la réforme, vers le calvinisme, s'explique peut-être par ce passé, par cette alliance anglaise ancienne et qui est renouvelée, effectivement, au moment des guerres de religion, notamment en 1562, au tout début des guerres de religion, lorsque les villes de Dieppe et du Havre se donnent aux Anglais, s'ouvrent aux flottes anglaises et combattent du côté anglais contre le roi de France, avant que le roi de France, Charles IX, ne reprenne ces villes sur l'ennemi.
Alors vous allez consacrer bientôt, Franck Lestringant, un ouvrage à cette aventure française en Floride dans les années 1560-1568. Et donc on est après François Ier, c'est un livre qui va paraître l'année prochaine. Mais vraiment, François Ier, c'est le moment de basculement en quelque sorte. C'est comme si la France se retournait vers l'océan, vers ses côtes.
Ben, il y a un retard, évidemment, de la France par rapport à l'Espagne et au Portugal. Mais on peut dire que dès les années 1520, il y a des Français sur les côtes du Nouveau Monde. Et notamment au Brésil. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire au Brésil? Ils vont chercher du bois de braise, le pau Brasil, qui a donné son nom au pays. Ils vont chercher ce bois de braise qui est un bois de teinture. C'est un bois tropical qui permet de teindre les étoffes en rouge. Et puis, il y a également la voie oriental vers Sumatra et Java. Et Jean Angot envoie des navires, les navires de Parmentier, par exemple de Jean Parmentier, il les envoie dans cette direction. Donc l'espace s'ouvre un peu plus tardivement que pour d'autres nations, mais s'ouvre donc à la nation française dans les années 1520. Et par exemple, en 1522, le corsaire Jean Fleury de Honfleur arrive à mettre la main sur le trésor de Cortés. Cortés a pris un substantiel trésor sur les pauvres Aztèques qui est massacré et assiégé. Et en 1522, ce trésor est ramené vers l'Europe et une partie est saisie en cours de route par un corsaire normand.
Au milieu de l'Atlantique? À quel endroit?
Oui, dans les parages des Antilles, bien sûr. Alors petit à petit, les Espagnols très vite vont faire attention, vont surveiller, vont protéger leurs galions de retour du Nouveau Monde. Mais à ce moment-là, il est encore possible de mettre la main sur des trésors.
Donc on peut considérer que vraiment, François Ier, c'est le moment charnière, c'est le prélude aux futures entreprises.
On peut dire que c'est le prélude aux futures entreprises. Il faut savoir aussi que les pilotes espagnols et portugais surtout se vendent aux puissances étrangères. Contrairement à ce qu'on a dit, il y a un secret bien sûr, il y a une politique du secret, mais ce secret est sans cesse transgressé. Et les pilotes se vendent aux Français et aux Normands, surtout, j'évoquais les Normands. Et c'est comme ça que les Normands acquièrent des connaissances qu'ils n'ont pas constituées et qu'ils bénéficient à leur tour. Alors l'exemple le plus connu, c'est la cosmographie universelle de Guillaume le Testu en 1556, qui est un atlas du monde entier tout à fait extraordinaire, qui est un atlas de sources portugaises, qui contiennent une cinquantaine de cartes, dont des cartes de l'Australie. Les premières cartes connues de l'Australie sont dans cet atlas. Et ces connaissances portugaises, eh bien, elles se diffusent. Et cet atlas est offert en 1556 par Guillaume le Testu, qui est pilote au Havre, dans la ville du Havre. Et cet atlas manuscrit, qui existe en un seul exemplaire, conservé aujourd'hui au ministère des Armées, eh bien, est dédié à l'amiral de Coligny. Et l'amiral de Coligny, c'est celui qui, dans la période suivante, va lancer des expéditions, d'abord vers le Brésil, puis ensuite vers la Floride.
Est-ce que sous François Ier, déjà, les intellectuels, les poètes, les écrivains, les penseurs s'intéressent à ces mondes nouveaux? Parce que Montaigne, c'est un peu plus tard.
Ah, Montaigne, c'est beaucoup plus tard. Montaigne, c'est exactement... Enfin, Montaigne meurt un siècle après le voyage de Christophe Colomb, en 1592. Donc, on peut... Il faut vraiment un siècle en France pour comprendre ce qui s'est passé, finalement.
Ouverture de l'horizon international au moment de François Ier. Vous écoutez Tout un monde sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Jean-Marie Le Gall et nous venons d'entendre à l'instant Franck Lestringant qui a publié notamment Le Huguenot et le Sauvage chez Droz autour de cette époque, donc des premiers voyages français à travers les océans. Alors Jean-Marie Le Gall, là on est en train d'écouter une musique turque. C'est aussi que cet horizon du temps de François Ier s'élargit en direction de l'Orient. Et ça, ça va faire grincer quelques dents. 1535, c'est la même année, le départ de Jacques Cartier et l'alliance avec Soliman.
Alors, effectivement, une des raisons pour laquelle a-t-on dit pendant longtemps que les Français ne s'étaient pas assez intéressés à l'Amérique, etc., c'est que tout d'abord, ils faisaient peut-être du commerce avant tout, plutôt que de la colonisation, et que finalement, les Français étaient intéressés par la Méditerranée, l'Italie, mais au-delà de l'Italie, évidemment, le Turc. Le Turc, qui à l'époque est de plus en plus une puissance européenne. Rappelons quand même que Vienne est assiégée en 1529, que la Hongrie est tombée dans l'escarcelle du Turc en 1522, et par conséquent, le Turc, qu'on le veuille ou non, est un acteur européen. D'ailleurs, ce Turc, c'est quelqu'un que l'on admire pour ses succès militaires, pour une certaine discipline, pour le raffinement de sa civilisation et par le commerce important qu'il y a entre les Occidentaux et d'autre part les Turcs, notamment autour des épices. Parce que même si les Portugais ont découvert la route pour aller directement chercher des épices en Inde, à Java et à Sumatra, en fait, ils n'ont pas tari la route traditionnelle qui achemine les épices vers les échelles du Levant pour ensuite rejoindre Venise. Alors, ce Turc, qui est un acteur de la scène européenne, eh bien, la tentation des puissances européennes pour essayer de régler leurs différences, c'est de faire appel aux Turcs. Et ça a déjà commencé en Italie. Il y a un livre de Giovanni Ricci qui s'appelle « L'appel aux Turcs » qui montre que c'est une tradition. Un exemple, tout le monde connaît Ludovic le Mort, le duc de Milan. En fait, il est appelé le Mort pas seulement parce qu'il était un peu basané, mais parce qu'il avait, à un certain moment, pour essayer de régler ses différends avec le roi de France, eh bien, et puis avec d'autres princes italiens, fait appel en quelque sorte aux Turcs. Alors, c'est à l'occasion de la défaite de Pavie que les premiers contacts sont pris. Ces contacts vont avoir finalement deux orientations. Tout d'abord, une orientation commerciale. Pourquoi est-ce que la France n'aurait pas des échelles au Levant, des privilèges, le statut de nation privilégiée? Et c'est en ce sens d'ailleurs qu'on en parle des fameuses capitulations qui auraient été signées entre François Ier et Soliman. En fait, on sait que ces capitulations n'ont jamais été signées. C'était tout simplement un document de travail qui avait été rédigé par l'ambassadeur Laforest. Mais il se trouve que on a fini par croire à l'existence de ces capitulations commerciales, puisque ensuite elles ont véritablement, un peu plus tard, était validé. C'était l'idée que les marchands français pourraient obtenir des avantages dans les villes d'Alexandrie, Alep.
Le commerce, c'est donc le maître mot. On a souvent une vision un peu romantique des voyageurs, aventuriers qui partent. La vérité, c'est qu'on cherche des réseaux de commerce.
Il y a du commerce, mais comme toujours, il y a aussi une curiosité, je dirais, scientifique. Il y a par exemple un grand humaniste français qui s'appelle Pierre Belon, qui est un des premiers zoologistes zoologiste qui a beaucoup écrit sur les animaux et qui s'est rendu là-bas. Mais l'alliance avec le Turc va aussi être une alliance militaire et probablement que la France et Soliman, François Ier et Soliman, ont envisagé des opérations combinées et on n'a jamais été aussi loin dans l'alliance militaire, notamment avec la flotte turque qui passe l'hiver 1543 à Toulon.
Merci Jean-Marie Le Gall. L'honneur perdu de François Ier, c'est votre dernier ouvrage. C'est donc cet épisode de Pavie, 1525. Voilà, c'est sur ce joli clavecin que se termine Tout un monde, le magazine des rencontres entre les cultures. À la prise de son, Jean-Guy Lamège, à la réalisation, Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque mardi, avec la collaboration de Claude Armand de Castio, vous est proposé par Marie-Hélène Fraissé.
C'était François Ier, la Renaissance et le goût du monde, pour Tout un monde, de Marie-Hélène Fraissé, diffusé la première fois le 12 mai 2015. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.